putain. Oh putain. Oh, c'est vous, chers auditeurs. Oh là là. Non mais, écoutez, déjà chez moi, ça surprend. Mais alors là, vu le contexte, hein, y a de quoi avoir une attaque, hein. Vous vous rendez compte? On est en pleine nuit, hein, au milieu d'un cimetière isolé. Alors, merde. Hein, ce que je fais? Ah, ça vous me le demandez à chaque fois. Hein. À votre avis, hein, mes chers auditeurs, c'est pas que je vous prenne de haut, mais... Donc je suis là, en plein milieu, donc comme je le disais, d'un cimetière isolé. Pendant la nuit, je tiens une pelle et je me trouve devant une tombe dont le sol est retourné. Ça vous évoque rien, hein? Oui, voilà, je suis en train de, voilà, de profaner une tombe, hein, une merveilleuse tombe. Oui, je suis en train de creuser, voilà, pour atteindre le cercueil. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça que je suis là. Comment? De la nécrophilie. Ah, non, je dois avouer que... Non, non, ça, je suis pas super fan. Non, non, c'est autre chose. Bah, écoutez, je vais vous expliquer, hein, mais ça reste entre nous. Hein. Je compte sur vous. Hein. Eh bien, écoutez, voilà. Il se trouve que j'ai récemment, au cours d'une conversation, que j'ai surprise par hasard, j'ai entendu dire, voyez-vous, que certaines voitures d'occasion étaient en fait rachetées, hein, par des entrepreneurs en vue d'être exportées, oui, pas moins que dans les pays du tiers-monde. Oui, oui, elles sont un peu retapées comme ça, puis elles sont envoyées là-bas par bateau de façon à les revendre aux personnes là-bas qui ont mis un petit peu de pognon quand même, hein, parce que voilà, elles n'en ont pas assez pour pouvoir s'acheter des neuves sortant de... Vous savez, les voitures rutilantes qui sortent de l'usine. Non, ça c'est complètement, c'est un rêve inaccessible pour ces pauvres sauvages. Mais donc voilà, j'ai appris ça et j'ai cogité, j'ai pensé, je sais pas trop pourquoi, mais allez savoir, hein, quand on est créatif, on ne sait pas toujours d'où ça vient, mais ça vient, c'est l'important. Je me suis dit, les cercueils, bon ben c'est quand même du bon matos, hein, ça tient bien le coup, et ça coûte cher, ça aussi, très très cher même, hein, et... Et peut-être que le tiers-monde serait intéressé de recevoir des cercueils d'occasion. Donc voilà, je fais ça de temps en temps. D'une part parce que ça me fait prendre l'air, ça me fait de l'exercice, et puis bon, ben ça arrondit un petit peu mes fins de mois aussi, hein. Quoi? Oui, oui, j'en ai pas besoin, je suis riche à millions, mais il n'y a pas de petit profit. Que voulez-vous, hein? Oui, voilà, je suis comme ça. Je suis un grand insatiable, jamais content de ce que j'ai, alors. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais en train de déterrer ce cercueil. Ah, et les cadavres, bon, ouais, bah, s'ils sont encore raisonnablement frais, je les revends aux écoles de médecine. Comme ça, ils ont de quoi disséquer. Et sinon, s'ils sont trop vieux, bah, quand ils sont bien secs et bien momifiés, bah, vous savez, ça peut paraître étrange, mais oui, on ne soupçonne pas, mais voilà, c'est un excellent combustible domestique et ouais, je fais un petit peu ma réserve pour l'hiver quand j'en ai l'occasion. Hein. Bon, allez, bref, assez de parlotte, hein, je suppose que vous êtes venus pour une merveilleuse nouvelle histoire et en tant qu'homme de cœur, bienfaiteur de l'humanité, je ne vois pas pourquoi je vous en priverais. Hein. Alors, si vous voulez bien juste m'aider à... Voilà, s'il vous plaît, merci. M'aider donc à charger ce cercueil dans la camionnette là-bas, bah, je vous inviterai à monter avec moi et à m'accompagner jusqu'à chez moi, hein, et après quoi, juste le temps de me débarbouiller, et je serai à vous pour vous narrer donc une merveilleuse nouvelle histoire. Hein. Allez, venez, allons-y. Nous sommes très exactement en 39 avant l'incident des carottes de Samuel, soit presque 10 années en amont des événements de la préface et à 29 de ceux de la Genèse. Le soir tombait paisiblement sur un petit village de campagne, planté au sud-ouest de la célèbre capitale, royaume lointain sans lettres, une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge mais plus vraiment l'Antiquité et qui est un sol propice à la poussée des carottiennes. Dans ce village, donc, et durant ce lointain, chaud et humide soir de fin d'été là, un vieux paysan boiteux circulait en s'appuyant sur sa vieille canne en bois, et l'aimable vieillard, accompagné de son petit-fils, effectuait alors une ultime tournée d'inspection de ses cultures avant de se mettre au pageau. Cela pourrait sembler être un tableau des plus ordinaires aux braves fidèles qui m'écoutaient, peut-être, mais il va sans dire que je ne vous parlerai pas de tout cela si une chose étrange n'était pas sur le point de se produire.
Qu'est-ce que tu fais, grand-papi?
Eh bien, mon petit Barnabé, je fais une dernière tournée d'inspectage des cultures avant de me mettre au plus mal. Faut suivre un peu.
Ah bon? D'accord, je te suis.
Ben, si tu veux, mais reste bien sur le sentier pour pas piétiner mes légumes, scrognugneux.
C'est quoi les légumes qu'on élève, en fait?
C'est vrai qu'il faut que tu apprennes si tu veux reprendre la ferme un jour. Eh bien, ici, il y a les carottes jaunes, là-bas, les carottes naines, tout le long sur la droite, ce sont les carottes normales, et près des enclos, nous
et
avons...
Et ça, grand-papi, c'est quoi comme genre de légumes?
Hein? De quoi, ça?
Ben, le gros, là, au milieu des hautes herbes.
Dieu, Mais ça, mon petit fio, c'est pas un légume, c'est une femme. Elle gît inconsciente sur le sol, mais respire. Elle est entièrement à poil et doit avoir vu le nez peut-être bien 30 ans ou pas loin. Pour sûr, c'est une belle plante, mais je n'en fais pas posséder comme ça, moi. Peut-être qu'il faudrait alerter la milice.
C'est quoi ça, la milice, grand-papi? Hein? Dis, dis.
Le vieillard ne répondra que plus tard à cette question. À ce moment-là, il avait préféré s'avancer vers le corps inerte et nu de la jolie brune allongée entre ses parcelles de carottes, le visage caché par ses longs cheveux. L'ancêtre tapota l'épaule de l'étrangère du bout de sa canne, et soudain, la demoiselle s'éveilla.
Eh bien, ma petite, que faites-vous ici? On vous a fait du mal, ou? Hé, où allez-vous?
Oui, sans dire mot, l'étrange inconnue, visiblement terrifiée, s'était brusquement levée et mise à détaler. Sans se retourner, elle s'en était encourue à toute vitesse, le pas maladroit, les jambes comme molles, manquant plusieurs fois de trébucher, ignorant la caresse de l'air froid sur sa peau découverte et la morsure de l'herbe sèche sur la plante de ses pieds.
Bizarre, cette gueuse, pour sûr. Mais si mes chants doivent devenir un camp de nudistes, j'aimerais autant qu'on me demande avant, et qu'on me paye l'entrée aussi, mon Dieu.
Abandonnons ici ces modestes planteurs de carottes pour nous concentrer sur la fugitive. La pauvrette semblait, par réflexe, quitter les champs pour se diriger vers le centre du village comme si elle était attirée par les lumières émanant des fenêtres des chaumières. Arrivée d'ailleurs au milieu de celle-ci, la visiteuse en proie à la toute nudité ralentit le pas, anxieuse et toujours silencieuse, regardant désespérément autour d'elle comme pour tenter de trouver en ce lieu quelque chose de familier ou de réconfortant. Mais les seules personnes qu'elle vit furent deux ménagères qui l'aperçurent par leurs fenêtres respectives. Et hélas, ces dernières vinrent juste fermer les volets au nez de l'étrangère tandis que leur marmaille attablée riait de son infortune. Notre pauvre ami n'avait pu trouver assistance dans le cadre lumineux de ses chaumières. Mais il restait, heureusement, une bâtisse bien plus grande et bien plus éclairée au bout de la rue. Voyant cela, plaçant péniblement un pied devant l'autre, tant son corps semblait épuisé, notre ami s'approcha du bâtiment avec la lenteur du désespoir. Et parallèlement, l'obscurité s'épaississait et l'air avait oublié la chaleur du jour. Aussi, la sauvageonne eût alors aimé que sa chevelure brune fût plus longue encore pour s'en envelopper comme d'un manteau. Mais cet inconfort-là perdit toute priorité aussitôt qu'un bruit se fit entendre devant elle. Claquement retentissant, accompagné d'une lueur qui l'éblouit douloureusement, ainsi que par deux imposantes silhouettes.
Hé hey Bob, regarde un peu ce qu'on a là.
Ouais.
Le lumineux bâtiment n'était en fait rien d'autre que la taverne du village. Et deux avinés individus venaient d'en sortir, juste devant l'infortunée non vêtue. Cette dernière se figea, toujours sans émettre un son. Et c'est avec désarroi qu'elle regarda les deux paysans s'avancer vers elle, en titubant.
Alors, ma petite poulette, on a tout son linge au sale ou bien?
Ouais.
Ou peut-être que tu sais ce que tu veux, et que t'aimes pas perdre ton temps, hein, ma cochonne.
Ouais.
Et la nature, elle est bien faite, hein? Hein, Bob? Ça nous fornichons chacun?
Ouais!
Et dis-nous, pupute, tu suces ou bien? Eh oh, ça t'arrive de parler?
Ouais!
Bon, qui ne dit mot consent? Allez, Fifi, viens voir papa!
Et aux deux bromagnons de saisir les bras de la pauvre femme pour l'entraîner derrière la taverne, dans l'ombre et parmi les vieux tonneaux vides entreposés là. La demoiselle, les yeux en larmes, sans pour autant sembler comprendre ce qui lui arrivait, mais néanmoins terrifiée, tenta de se débattre. Mais elle était si maigre et si manifestement épuisée qu'elle ne put empêcher qu'on la transportât comme un simple panier à provisions.
Bon, je commence. Bob, toi tu montes la garde.
Ouais,
allez. Sacré Bob. Allez, ça nous en fera plus rien que pour moi, ma poulette. Ouvre la bouche et dis « Ah !»
Oui, un molosse du genre canin, venu près de nos protagonistes sans qu'on ne l'entendît, s'était soudain mis à aboyer férocement à l'attention du pervers paysan.
Oh putain, c'est quoi ce...
Le gros chien avait bondi et d'un geste aussi rapide que précis avait porté un coup de croc dans le pendouillant appareil génital de l'agresseur, lequel, paniqué, s'enfuit et disparut en pleurant dans l'obscurité. Et derrière la taverne, tandis que la pauvre sauvageonne était accroupie, tremblante entre plusieurs fûts, un autre homme s'approcha doucement. Ce jeune trentenaire trapu, moustachu, au regard paisible et vêtu de sombre, caressa la tête du chien, puis il s'adressa à la demoiselle avec douceur.
« Idée qui est Bob, encore ces deux-là, qu'allons-nous bien pouvoir faire de ces pauvres âmes? Ah,
Bonsoir, mademoiselle. Je vous prie de pardonner le manque de manières de mes concitoyens. Je m'en veux terriblement de n'avoir jamais réussi à leur inculquer de la moralité. Et leur consommation de cervoise n'arrange rien.
Mais toujours recroquevillée entre les tonneaux, l'inconnue nue ne répondit pas plus qu'à son habitude. Elle se cachait derrière une jambe et un bras qu'elle pliait devant elle, fixant cet homme depuis sa cachette avec de grands yeux ouverts craintifs qu'elle ne fermait plus, au rythme d'une respiration profonde et rapide, laquelle faisait par un coup gonfler son buste, tant qu'on aurait presque compris qu'il éclata. Et le chien, pour sa part, s'était assis et regardait affectueusement la pauvrette, tout en remuant la queue.
« Vous n'êtes pas d'ici, pas vrai ?» « Tenez, couvrez-vous avec ma cape et suivez-moi. Je vais vous héberger pour la nuit. Je suis le père Brigitte, le curé du village. »
Le brave homme d'église venait en effet de sortir de son presbytère situé non loin de là pour son habituelle promenade du soir en compagnie de sa chienne Serge. Cette dernière avait été alertée par la tension qui régnait derrière la taverne, d'où ce sauvetage impromptu.
« Prenez ma main, je vais vous aider à vous lever. »
Et c'est donc au presbytère que le père Brigitte emmena l'étrangère, au lent rythme de ses pas saccadés, tant celle-ci était tendue. Mais une fois sur place, le curé installa son hôte dans la confortable chambrette qu'il offrait parfois aux voyageurs égarés ou aux vagabonds de passage. Et sur place, la demoiselle s'assit sur le lit en mitouflée dans la cape qui lui avait été prêtée. Elle resta là en compagnie de Serge, qui semblait l'avoir prise en affection, tandis que le religieux s'éclipsa. Il revint quelques instants plus tard, les bras chargés d'un plateau.
« Voici pour vous, mademoiselle, un grand bol de lait de chèvre, du pain et une carotte. Cela vous fera le plus grand bien. Je vous apporte également une robe qui devrait vous aller. Cela n'est que l'un des vêtements reçus lors de la dernière collecte de charité, mais... »
Oui, l'étrangère s'était endormie, affalée sur le lit, par-dessus les draps, et la cape avait glissé pour gésir sur le sol. Le prêtre sourit, posa le plateau sur la petite table près de la fenêtre, puis s'approcha du lit. Il déposa la robe sur le dossier d'une chaise voisine, sortit une couverture de réserve de la commode adjacente, et couvrit gentiment l'inconnu. Il rappela ensuite Serge d'un geste, puis ferma délicatement la porte, laissant son invité seul, et profiter d'un repos bien légitime.
Le lendemain matin.
L'étrangère ne s'éveilla qu'en début d'après-midi, juste à temps pour le repas que préparait justement le père Brigitte. La demoiselle, à présent vêtue, déjeuna en compagnie de ce dernier, dans la petite cuisine du presbytère. Le père Brigitte fut d'ailleurs stupéfait par l'appétit de la demoiselle, oui, car la pauvrette devait n'avoir connu que la disette pour ainsi réussir à engouffrer la quasi-totalité de son garde-manger. Le curé fut cependant touché, car, de par son regard oculaire, il put constater que la jeune femme savourait réellement les aliments qu'elle goûtait, comme si pareille saveur lui était étrangère. Après cela, fourbu, l'autre tourna dormir, sieste qui l'atteint silencieuse jusqu'au lendemain matin. Et silencieuse, oui, la sauvageonne l'avait néanmoins été tout du long de son caméo gastronomique dans la petite cuisine. Elle n'avait en effet, à ce stade, toujours pas dit un mot. Le père Brigitte ne s'en inquiéta pas cependant, au moins était-il heureux de savoir son invité en sécurité. Il chargea néanmoins la brave Serge de garder la maison, puis il se rendit dans son église. Comme à son habitude, les mardis, le prêtre y tint le confessionnal, recevant d'ailleurs, en fin de journée, pas moins que les deux individus lubriques qu'il avait croisés la veille au soir. Et il se trouva, d'ailleurs, que leur sobriété revenue, les dix paysans s'en étaient retrouvés quelque peu sujets aux remords et autres regrets. Enfin, tout du moins, à leur façon.
« Non, Hideki, je suis certain que tout cela n'était pas une idée de Bob. »«
Ouais !»
Et bref, quelques jours passèrent. Durant ceux-ci, notre bon curé fit de son mieux pour communiquer, et j'insiste bien sur la partie commune de ce mot, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, de son mieux pour communiquer donc, avec l'étrangère qui l'hébergeait. Tout au plus, le père Brigitte put-il faire répéter, et ce maladroitement du reste, quelques syllabes à la pauvrette. On eût dit qu'elle ne maîtrisait pas l'art du langage, bafouillant, hésitant, bloquant même, la plupart du temps. Mais plus encore que tout cela, il fut, mes chers auditeurs, une chose qui émut fortement notre ami le prêtre durant ses échanges avec la demoiselle, oui. Cela vint alors qu'il essaya de lui faire dire son nom.
« Moi, Brigitte. »«
Brigitte. »«
Bien, grosse saucisse qui dort devant la porte, Serge. »«
Berge. »«
Oui, enfin, pas mal. Et toi ?»
Un éclair de tristesse avait alors traversé les yeux de la pauvre sauvageonne, tandis qu'elle semblait scruter les ruines d'une mémoire qu'elle ne pouvait décidément pas recouvrer. Oui, l'amnésie de la donzelle semblait profonde et laissait peu d'espoir au brave père Brigitte. Celui-ci ne put, hélas, que se sentir bien impuissant devant cette persistance. Aussi réfléchit-il.
« Seigneur, la pauvre fille, j'en viens à penser qu'il s'agit là d'une simple d'esprit. Quel que soit son mal, en tout cas, je ne vois plus quoi tenter. Je ne peux vraiment plus rien pour elle. » Demain, je pense que j'emmènerai cette pauvre enfant à la capitale. Je crois que les gens que j'y connais pourront peut-être faire mieux. Ou tout du moins, prendre en charge cette femme et lui offrir une vie décente et sécurisée.
Et le père Brigitte tint parole. Le matin suivant, dès l'aube, il emmena la demoiselle en direction du nord-est. Notre brave religieux conduisait la petite charrette qu'il possédait, laquelle était tirée par une vieille mule brunâtre, répondant au doux nom de Pedro. Et ainsi, avec à l'arrière sa passagère qui somnolait, appuyée contre les flancs de Serge, qui somnolait également, notre petit cortège battit-il la campagne quelques heures durant. Une fois arrivé à destination, notre bon curé fit descendre la sauvageonne. Il fut surpris, mais cependant un peu consolé en constatant que celle-ci ne semblait pas s'être inquiétée de toute cette agitation. Elle lui-même semblait en fait fascinée par la vision de ces vastes paysages, suivis par les grouillantes rues de la cité centrale du royaume. Et alors, à présent, c'était comme tout enthousiaste que la jeune femme découvrait ce lieu étrange où son hôte l'avait emmenée, cette gigantesque bâtisse ancienne aux murs sculptés.
Couchez, Serge.
Oui, touchez, Serge. Oh, bonjour, mon petit Brigitte. Quelle bonne surprise.
Mère supérieure, je suis tout aussi ravie. C'est justement vous que je désirais voir. Quelle coïncidence pratique que vous soyez celle qui ouvrit la porte.
Ah, ça, mon fils, c'est probablement l'œuvre de notre Seigneur.
Ah, si vous l'avez deviné, je vous fais mes plus chaleureuses félicitations, mes chers auditeurs. Car oui, c'est bien du couvent des sœurs de la capitale qu'il s'agit. Cette communauté de religieuses responsables d'un orphelinat et que maintenant nous connaissons bien. Oui, ce noble et saint établissement était déjà, en cette année -39, dirigé par la gentille et pétillante mère supérieure. Ah, la seule différence qu'elle avait alors encore assez de dents pour être intelligible sans le secours d'un interprète.
En tout cas, vous n'avez pas changé.
Un vil flatteur, va.
Mais je vous assure, vous paraissez exactement la même que celle qui me donnait cours de catéchisme quand j'étais enfant. Vous êtes un peu comme l'acteur Max von Sydow, vous. On vous a toujours connue vieille.
Et vous, mon fils, vous êtes toujours un seul petit chenapan. Vous êtes bien chanceux que je n'ai pas ma règle avec moi.
Oui, et j'en remercie le Seigneur.
Et vous ne savez pas ce que vous manquez. On n'arrête pas le progrès de nos jours. Les règles de maintenant sont bien plus résistantes et leur aérodynamisme a été retravaillé de façon à accroître le déplacement de l'objet dans l'air. Gain de vitesse qui augmente la douleur à l'impact de jusqu'à 17%. Et je ne vous parle même pas des éditions spéciales qui sont barbelées ou télescopiques. Ah, si le ciel voulait bien m'en faire don d'un exemplaire, je...
Pardon de vous couper, ma mère, mais je ne suis pas venue ici que pour la joie de vous revoir. J'ai avec moi, voyez-vous, une pauvre femme que j'aimerais confier à votre couvent, si vous le permettez.
Et à notre brave père Brigitte de tout raconter à la mère supérieure. Sa rencontre avec cette femme errante, son mutisme et son amnésie, comme si elle était au fond tout à fait capable de parler, mais ne se rappelait plus comment procéder. Finalement, la commisérante directrice du couvent accepta d'offrir l'asile à la sauvageonne. Le curé en fut heureux, mais aussi tout autant ému de se séparer de sa protégée après ces quelques jours de contact continu. La demoiselle sembla comprendre que leur route se séparait là et manifesta également un certain chagrin, et ouais. Cela dit, après avoir étreint son sauveur comme pour le remercier, la belle eut l'envie de faire de même avec la chienne Serge. Et c'est là qu'une chose pour le moins inattendue se produisit.
Au revoir, Terge.
Mais qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi s'évanouissent-ils? Et tous les deux en même temps?
Je ne sais pas, l'émotion sans doute. Allez, emportez donc votre chienne. Je me charge de transporter la petite à l'infirmerie, hein?
Vous êtes sûr que cela ira?
Mais oui, regardez, je n'ai que 88 ans, je suis encore fraîche, hein?
Et ainsi le père Brigitte emporta-t-il son toutou évanoui dans son chariot, avec lequel il repartit en direction de sa paroisse. La chienne se réveilla bientôt, un peu groggy, mais visiblement en bonne santé. Parallèlement, la sauvageonne quitta sa torpeur dans les bras de la mère supérieure avant même qu'elle n'eût atteint l'infirmerie. Aussi, après lui avoir offert une collation et avoir pris un peu de temps pour la rencontrer, les sœurs du couvent se réunirent-elles dans la chapelle. Non encore pour la prière du soir, non, car il s'était en fait agi d'organiser une cérémonie. Cela en vue d'accueillir dans leur rang la nouvelle venue, d'en faire l'une des leurs.
Enfant de cœur, Mistaguette, veuillez m'apporter la malle contenant les habits de réserve.
Oui, mère supérieure, tout de suite.
Et ainsi, jeune enfant de notre Seigneur, seras-tu bienvenu chez nous aussi longtemps que tu le souhaiteras. Mais pour qu'il en soit ainsi, faire tiens nos usages, il sera requis.
Fit la porte du presbytère, alors que le père Brigitte venait d'y entrer, pile au même instant que celui où débuta la fameuse cérémonie.
Tiens, ma Serge, voilà ton dîner. Eh bien, qu'as-tu donc ? Mais pourquoi tes yeux sont rouges ?
De piété, tes journées seront faites, et d'humilité, ton cœur sera emprunt.
Serge, mais qu'est-ce qui te prend ?
De chasteté sera ton chemin, de pauvreté sera ta maison.
C'est quoi ce bouton ? Damnée, encore cette chienne ! J'en étais sûre, cet animal est dangereux ! Toi, tu vas tâter de ma fourche! Tiens!
Je te baptise au nom de notre Seigneur et t'offre cet habit en signe d'accueil en notre ordre!
Ça va, monsieur Brigitte?
Hideki, c'est vous! Merci de m'avoir secouru! Ma pauvre Serge, mais quelle folie t'a prise!
Oh, mais on dirait que votre blessure à votre gorge a changé votre voix!
Bienvenue parmi nous, sœur Janine.